au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Mercredi 27 mai, j'espère que vous avez passé une belle journée. Avec Pierre Paquette aujourd'hui, on va parler du débat sur la clarté référendaire qui est relancé à Québec. Avec nous aussi, Anne-Marie Picard, la directrice générale du CREVAL. On va parler de la problématique de l'analphabétisme dans Lanaudière. Caroline Babin avec nous, présidente de la Grande Fête Culture Expo Rive-Nord, la prochaine édition qui aura lieu du 26 au 28 juin du côté de l'Assomption. Guy Brault, président lanaudois des acériculteurs, sera là pour nous parler de cette saison qui a été abondante en sirop d'érable. Mais tout d'abord, il semble y avoir quelque chose qui cloche au sein de la MRC de Joliette. Le Conseil des maires a adopté le règlement modifiant le schéma d'aménagement de la MRC afin de modifier les grandes affectations là, sur le territoire de Saint-Thomas en lien avec le projet d'agrandissement du site d'enfouissement. Le maire de Saint-Thomas, Mario Rondeau, qui brillait par son absence, une absence qui a été constatée par l'observatrice qui a été nommée par Québec à la demande du conseil municipal de Saint-Thomas, qui allègue une centralisation du pouvoir et un manque de transparence de la gouvernance à la MRC. François Morin en discute avec le préfet de la MRC de Joliette et maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerin.
Pierre-Luc Bellerose, dans un premier temps, il y a un dossier quand même important au sein de la MRC. C'est le règlement concernant le changement d'usage pour le territoire de Saint-Thomas. L'expliquer grosso modo là, pour les gens qui nous écoutent, là, qu'est-ce qu'on fait?
Mais finalement, ça découle de l'entente de 2023 qui avait été entérinée là, par le Conseil des maires là, précédent. À ce moment-là, c'était M. Le Bellemare qui était préfet, donc qui a négocié avec DLN. Puis il y avait notamment là la volonté de la MRC d'aller de l'avant avec l'implantation là, sur le site dont il est question de l'agrandissement de DLN. Donc, faut se rappeler aussi que la CPTAQ avait dit dans son dernier verdict que ça devait être au pourtour du site actuel, donc du côté de Sainte-Geneviève-de-Berthier ou à Saint-Thomas, mais c'est une terre là, dont l'usage est agricole, donc le changement d'usage pour l'industriel. Par contre, en attendant un feu vert du gouvernement, l'usage agricole là, demeure. Donc, il n'y a pas de changement à court terme. Puis, il faut rappeler aussi que le règlement, même s'il a été adopté hier à la MRC, doit être accepté au niveau des affaires municipales.
Il y a quand même des citoyens qui s'inquiétaient parce que ce que j'ai compris, parce que j'y était là à la MRC, c'est que il y a quand même, je dirais pas un dialogue de sourds, mais c'est parce que les gens posent les mêmes questions qu'il y a 2 ans.
Exactement. C'est souvent les mêmes intervenants qui posent les mêmes questions. Donc, malheureusement, je suis dans l'obligation de fournir les mêmes réponses parce que on parle beaucoup de régionalisation des matières résiduelles, mais c'est pas de notre côté que ça va se décider, là, une telle orientation. C'est le SEC Québec, c'est le gouvernement du Québec, là, qui viennent approuver, là, nos PGMN, nos plans de gestion de matières résiduelles, et la MRC ne peut pas déterminer la provenance des déchets.
Non plus que la quantité, c'est ce qui inquiète beaucoup les citoyens.
Oui, mais il y a eu l'adoption. Par contre, comme je l'expliquais, moi, quand je suis arrivé en poste comme préfet, on a revu le projet. Le projet initial, de mémoire, c'était 117 hectares qui a été revu à 87 hectares, notamment pour préserver le potentiel acéricole, d'une part. Deuxièmement, on a reporté l'adoption du projet, que ce soit après l'adoption des nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Donc, c'est plus complexe aussi de, disons, de faire passer le règlement. Puis après ça, il y a eu l'adoption d'un ticket modérateur, là, pour que ça devienne dissuasif là, d'avoir un tonnage supérieur. Donc, il y a eu des mesures de prise depuis les consultations avec les citoyens puis les échanges avec le regroupement.
Il est quand même particulier de constater que le règlement, ben, en fait, ce qui a été adopté hier, ça a été fait en l'absence du maire de Saint-Thomas.
Ben, écoutez, vous lui posez la question. Je suis pas en mesure de vous répondre, mais effectivement, ça peut susciter des questions.
Et puisqu'on parle d'un dossier global de la MRC, ça implique le maire de Saint-Thomas. On sait qu'il y a une observatrice maintenant qui est à la table là, de la MRC pour voir comment ça se passe. J'imagine qu'elle a pris note justement de l'absence de M. Rondeau.
Ben, écoutez, l'observatrice est avec nous depuis quelques semaines déjà. Va quitter là, dans les prochains jours. Elle va remettre un rapport là, pour le 5 juin. Donc, moi, je suis dans l'attente de ce rapport-là, puis j'ai aucune inquiétude de mon côté, puis je vais réitérer ce que j'ai toujours dit, puis même que je me réjouis de l'arrivée là, de l'observatif, je pense que ça va mener dénouer certains impasses et aussi éclairer peut-être là, certains points, puis moi, je réitère là, ce que j'ai toujours dit. Il n'y a aucun... de notre côté, il n'y a aucun doute là, sur l'intégrité, sur le travail qui est réalisé du côté de la MRC. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Certainement. Mais on s'appelle que les allégations là, de M. Rondeau, ou à tout de moins, les résolutions qui ont été adoptées, qui demandaient la tutelle, qui parlaient d'ingérence du préfet, que le préfet décrétait certains trucs, là, c'est largement exagéré. Même chose au niveau des prétentions par rapport au conseil d'administration. Donc, je pense que ça va mener faire la lumière là, sur toutes ces allégations-là qui ne sont pas fondées.
Et on n'a pas vraiment idée quand sera déposé le rapport.
Ma compréhension, c'est qu'il doit être déposé d'ici 5 juin. Après ça, ben, c'est le ministre là, qui devra prendre des décisions suite aux conclusions ou aux recommandations de l'observatrice.
Bon, ben, c'est clair. On connaît le point de vue de Pierre-Luc Bellerose, préfet de la MRC de Joliette et maire de Joliette. Reste à savoir pourquoi le maire de Saint-Thomas, Mario Rondeau, ne s'est pas pointé, brillait par son absence là, hier, en fait, lors de ce conseil des maires. Là, non pas, ça fait 2 jours, je crois. Il est 16h12 dans les prochaine minute, Guy Brault, président lanaudois des acériculteurs.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les 3 jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte?
Bingo! Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ. À Joliette, dépanneur Jean-Louis, dépanneur Filgo, dépanneur voisin Polo dans le Carrefour du Moulin, dépanneur Proxy Extra Arnois, Tabagie 636, dépanneur Michel Caram, dépanneur Nico, dépanneur Couchetard, dépanneur Marie, épicerie Forêt, dépanneur voisin Joliette, dépanneur Super Sagami Pétro-Canada et pharmacie Nancy Gaudreau. À Saint-Charles-Borromée, dépanneur Couchetard, dépanneur Rapido, dépanneur Bonny-Soir-Chelle, dépanneur Saint-Charles, IGA Marché C&C Le Thor. À Notre-Dame-des-Prairies, dépanneur 350 voisin, dépanneur des Prairies, marché Philippe voisin et à Saint-Paul-de-Joliette, dépanneur Bonisoir, dépanneur Proxy Extra, dépanneur voisin. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Le Théâtre de l'œil ouvert présente L'effet Lisa, un théâtre musical original inspiré de l'œuvre de Richard Desjardins. Jenny, le bum, le bon gars, la femme de ménage, l'enraciné du Boomtown Café et l'homme du camp prennent vie en plein cœur d'un feu de forêt. Sous le regard tendre et brûlant de Lisa, la lune. D'où vient le tison qui a tout allumé? L'effet Lisa, dès le 10 juillet au Centre culturel Desjardins à Joliette. Billets en vente, l'effetlisa.ca.
Écoute en direct, actualité régionale, réécoute, concours et bien plus sur l'application CFNJ à télécharger sur Android et Apple.
Envie de manger un bon repas dans une ambiance décontractée? Le CA Resto Traiteur au centre-ville de Joliette propose une cuisine authentique mettant en vedette les saveurs lanaudoises et des produits frais. Découvrez le menu midi unique à toutes les semaines ou encore le menu régulier pour dîner ou souper. Le CA Resto Traiteur offre aussi son service de traiteur personnalisé pour toute occasion. Mariage, réunion d'affaires, anniversaire, corporatif et bien plus. Informations et réservations au 450-394-5880. Le CA Resto Traiteur, 434 boulevard Monceau à Joliette.
En été, il y a des odeurs de barbecue qui voyagent dans le quartier. Comme celle de vos burgers cuisinés avec du bœuf haché maigre à seulement 5,44 la livre ou 11,99 le kilo en spécial chez Métro cette semaine. Gratinez-les avec le fromage sélection 400 grammes à seulement 3,99. Ça risque de faire jaser le voisinage. Retrouvez vos fruits et légumes en abondance chez Métro juste à temps pour l'été. Difficile de trouver mieux. Des conditions s'appliquent. Détails en magasin ou sur métro.ca.
Lanaudière PM,
Alimentation.
16h15, la saison 2026 du sirop d'érable est qualifiée d'excellente malgré les sautes d'humeur de Dame Nature. Et s'il y a eu abondance dans la production, ben, il est assuré que nous, les consommateurs que nous sommes, on va devoir payer un peu plus cher à long terme. François Morin s'est entretenu là-dessus avec le président Lanaudois des acéricultrices et acériculteurs, plutôt agriculteurs ou acériculteurs, acéricultrices, en tout cas, Guy Brault, qui est président de cette organisme, on l'écoute.
Alors, Guy Brault, donc, au terme de l'Assemblée générale des productrices et producteurs acéricoles du Québec, on se rend compte que finalement, on a eu une bonne saison, j'imagine que dans la Naudière aussi?
On a eu une super de bonne saison.
En termes de chiffres, ça veut dire quoi?
Une moyenne de 4,05 livres par entaille, une moyenne. Ça représente aux alentours de 200 quelques millions de livres produits dans le Québec.
Alors évidemment, quand on a une production comme celle-là, c'est sûr qu'on était un peu dépendant des caprices de Dame Nature, puis d'un autre côté, ben la barre est haute, puis ça coûte de plus en plus cher à produire.
Écoutez, c'est sûr et certain, comme tout autre commerce ou toute autre production, on a connu une hausse de tous les intrants au niveau de notre production. Et puis, on fait face à ça, puis c'est pour ça qu'on s'enligne dans une négociation une convention à la hausse dans les semaines qui suivent.
Ça veut dire donc que les consommateurs, malheureusement, devront payer un petit peu de la facture, là?
Écoutez, moi, je vous dirais que les consommateurs sont présentement dans le bain du paiement de cette facture-là. Les transformateurs se sont préparés à cette hausse-là. Et puis, la facture auprès des consommateurs, là, il va peut-être y avoir une petite hausse, mais ça va être minime.
Rien donc pour gruger un budget?
Non, non. Puis, j'ai quasiment le goût de vous dire que le produit du sirop d'érable que je qualifie comme élément qui est essentiel à l'équilibre de la santé humaine, on peut le comparer avec beaucoup d'autres sucrants que les consommateurs se payent sur le marché. Puis c'est pas la petite hausse qui va faire qu'ils vont cesser de consommer ces sirop d'érable.
Et il y a d'autres défis qui se pointent. Il y a eu des bonnes nouvelles quand même au niveau de l'augmentation des entailles de la part du gouvernement du Québec. Sauf que là, le Québec a reculé un peu.
Écoutez, si vous voulez parler de l'entente sur les terres publiques qui a été annoncée par la part de la ministre il y a un an, vous savez comme moi qu'il y a eu des changements au niveau de ce titre-là. C'est le deuxième ministre qui est renommé dans ce ministère-là. Et puis, c'est sûr et certain que le lobby de l'industrie forestière, si on parle dans l'est du Québec, dans la région de du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, le lobby de l'industrie forestière ont perdu des nombres d'hectares promis par la ministre. Mais on ne jette pas la serviette pour autant. On est une collectivité qui se tient. Et puis, quand un ministre annonce l'annonce qu'il a pu faire il y a un an, ben on va tout faire pour maintenir le respect de cette annonce-là.
Dans la Naudière, il y a une grande partie du territoire qui est de la forêt publique également. Est-ce que, d'une façon, il y a eu une réduction également du nombre d'entailles annoncées dans le coin ou on demeure optimiste et on demeure sur ce qui avait été annoncé?
Je vous dirais même qu'il y a eu une hausse du nombre d'hectares dans notre région qui nous a été attribuée. Et puis, on a présentement une très bonne relation avec le ministère des Affaires publiques par le biais de nos bureaux locaux. On a une très bonne entente et puis il y a vraiment une volonté du milieu de la conservation des potentiels agricole sur le court et le moyen terme. Il faut travailler sur le long terme maintenant. Mais il y a vraiment une volonté du milieu et de la part des membres du bureau de travailler de pair avec nous pour être capable d'établir et de faire grandir la production acéricole dans notre région.
Voilà, c'est, M. Brault, oui. Ça complète. Merci beaucoup.
Bon, ben voilà, c'était Guy Brault, le président lanaudois des acéricultrices et acériculteurs de Lanaudière, ou si vous préférez, là, les producteurs de sirop d'érable.
Lanaudière PM, tourisme.
Bonne nouvelle, la ville de l'Assomption va accueillir une autre édition de la grande fête Cultura Expo Rive-Nord du 26 au 28 juin prochain, événement qui attire jusqu'à 8000 personnes par année, qui promet encore de rassembler des familles, des passionnés d'agriculture, des épicuriens, des amoureux de culture, comme le souligne la présidente Caroline Babin à notre collègue Régent Turgeon.
Madame Babin, 2026, une autre édition de Cultura Expo Rive-Nord du 26 au 28 juin à l'Assomption. C'est une grande fête, là.
Ah oui, c'est vraiment gros. Dans le fond, dans les années passées, il y a eu près de 8000 visiteurs. Cette année, il y a des belles nouveautés. On va se parler de tout ça.
Oui, hein? Justement. On parle d'exposition, puis on parle de plein de choses pour attirer les familles, les passionnés d'agriculture, les épicuriens, et puis évidemment les amoureux de la culture. Mais parlons là du volet plus agricole. Les familles, les jeunes, ils veulent voir des vaches. Ils vont en avoir encore cette année, des vaches.
Mais oui, dans le fond, c'est vrai, là, c'est comme l'essence même de l'expo agricole. Hein. C'est pour, à l'époque, c'était pour démontrer, présenter nos animaux. Donc, faut pas oublier, il y a les jugements d'animaux. Le principal, ben, en fait, on a deux principaux. C'est le jugement bovin. Donc, plus d'une centaine de têtes qui va être le samedi. Donc, ça, c'est le jugement bovin. Et le dimanche, les jeunes ruraux. Les jeunes ruraux, c'est toute la relève qui vont présenter leur petite génisse. Donc, c'est vraiment intéressant. Et en plus, le samedi seulement, hein, à retenir, l'exposition des lapins. Donc, le jugement de lapin, qui est le samedi, c'est un des plus gros jugements, j'ose dire, au Canada. Là. Il y a 200 lapins, donc c'est à pas manquer.
C'était une nouveauté, ça, les lapins l'année passée, puis ça a remporté un vif succès. Là. On dit même que les juges viennent de l'extérieur de la région.
Oui, les juges, c'est parce que c'est des juges internationaux, donc ils viennent des États-Unis. Okay. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui ont des lapins qui veulent venir les exposer ici. Là,
Il y en a même 200 qui sont exposés, nous dit-on. Mais là, il y a une grande nouveauté. On parle d'une zone dédiée au bien-être animal. C'est peut-être quelque chose qui a passé sous le radar, ça, dans les années passées. On a senti un besoin de ce côté-là.
Vraiment, on avait des commentaires sur Facebook et tout, puis on sentait le besoin et même peut-être une obligation à venir parler du bien-être animal. Dans le fond, c'est financé par le MAPAC, puis il va avoir une zone avec vraiment interactive, avec des panneaux explicatifs, des jeux, des petites vidéos et tout, des conférences pour sensibiliser les gens, pour leur montrer c'est quoi le bien-être animal. Des fois, on pense qu'ils sont pas bien, mais ils sont bien. c'est bizarre comme ça. Donc, on veut démystifier le tout. Donc, ça va être vraiment important, puis je pense que ça va démystifier les fausses croyances et tout.
Les vaches, les lapins, mais il y aura aussi des exposants. Là. On va pouvoir acheter des produits du terroir puis d'un peu partout de la région, là, effectivement.
Oui. Il faut pas oublier toute l'allée des exposants. C'est super important. Il va y avoir des produits de terroir. Il va y avoir aussi toutes des créations artisanales. C'est à pas manquer, là, pour vrai. Là. Il y a tout le temps plein de découvertes à faire à chaque année.
Là, ces gens-là vont être installés sur le boulevard Lange-Gardien, je comprends bien, comme par les années passées. Des petites tentes blanches, là.
Exactement, c'est ça. Le boulevard Lange-Gardien va pouvoir faire notre magasinage, là.
On parle de l'Expo Rive-Nord, mais le volet culturel, le fameux culturel, il y a deux soirées majeures là, de spectacles, là.
Oui, exactement. Donc, sur la scène des Jardins. Donc, vendredi le 26 au programme, il y a Voyez Elle avec Luz Dufault, Loulou Hughes et Kim Richardson, entre autres. Une soirée à pas manquer. Et ensuite de ça, le samedi soir, on ouvre la cérémonie avec un petit peu d'agriculture. On fait le concours à Séricole. Et après, il va y avoir un pionnier du New Country, Vince Lemire. Et donc, apportez vos bottes de cowboy. Il va y avoir de la danse en ligne là. Et puis, ça va être par la suite, c'est quoi ta toune avec, Suzy Villeneuve, entre autres, là, okay. Celle que je connais le plus, là. Et c'est d'autres chanteurs là, qui vont... Ça va être interactif comme spectacle.
On parle aussi d'autres activités familiales. On revient avec notamment la fameuse boîte, la course de boîte à savon. Donc, on parle effectivement de la zone famille. Mais tout ça, là, c'est possible grâce, évidemment, aux bénévoles. Mais vos commanditaires, là, Mme Babin, ils sont importants.
Ah oui, vraiment, vraiment des appuis essentiels à ce que l'Expo perdure, Cultura Expo Rive-Nord. Donc, je vais les nommer ici. Cultura Expo Rive-Nord est présentée par Desjardins en collaboration avec Repentigny-Chevrolet, avec l'appui du MAPAC, de la Ville de l'Assomption, Tourisme Lanaudière et de nombreux partenaires régionaux. Et je voudrais souligner que la Ville de l'Assomption est dans sa première année de 3 ans. Donc, on aura signé pour 3 ans là, avec la Ville de l'Assomption. Donc.
C'est un événement dans lequel croit beaucoup la Ville. Et ça, c'est un témoignage exceptionnel de confiance.
Effectivement, je crois que c'est vraiment, vous l'avez bien dit, un témoignage de confiance par rapport à nous. Puis je pense que c'est comme, je pense que c'est la seule exposition dans un centre-ville. Donc, on veut pas perdre ça. C'est original, puis Cultura, avec la culture, puis les animaux, l'agricole, c'est fantastique.
C'est une rare exposition agricole sur la rive nord de Montréal.
Ah oui, ben je pense que c'est une des seules sur la rive nord, effectivement. Sinon, il faut aller loin là, pour aller à une autre expo agricole.
Madame Babin, un gros merci.
Ben merci à vous. Au plaisir de se revoir.
Régent Turgeon qui s'entretenait avec Caroline Babin, elle est présidente de la grande fête Cultura Expo Rive-Nord qui aura lieu du 26 au 28 juin prochain du côté de l'Assomption.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Oh, métropolitaine pour Charles de Gaulle actuellement, là, c'est très lourd. J'essaie de voir si je peux avoir des détails, mais non, en fait, ça devient plutôt dense là depuis avant Bourget. Très lourd secteur Henri Bourassa, là, je vois que c'est même paralysé là dans la voie de service. Et sur la métropolitaine, on avance à pas de tortue. C'est ainsi presque jusqu'à Charles de Gaulle. Oh, attendez, je vois que sur Charles de Gaulle, il y a peut-être eu quelque chose là tout à l'heure. Je regarde sur la caméra. Ça semble prendre du mieux là, sur Charles de Gaulle. Mais n'empêche que c'est très, très lourd. Prenez votre mal en patience là, sur la métropolitaine. Du côté de Repentigny, 40 Est, on circule sans problème. En direction ouest, c'est dense entre De La Rochelle et la 40. 341, montée de l'Épiphanie, très lourd entre la 40 et la rivière L'Assomption. Pont-le-Gardeur, c'est pas mal dense pour franchir la rivière des Prairies, mais l'approche est quand même facile par Sherbrooke et Notre-Dame. 25 Nord, lourd depuis Henri Bourassa, Montréal, et ça le demeure jusqu'à la hauteur du boulevard des Mille-Îles, Laval. Secteur Île-Saint-Jean, Terrebonne-Mascouche, ça va bien, 25 Nord. Pont Sophie-Masson, un peu dense en ce moment. Et finalement, autoroute 640 entre la 25 et la 40 en direction est. Plutôt dense depuis environ 2 km avant la 40 et direction ouest, ça va quand même assez bien. Des nouvelles dans un instant.
Bonjour, c'est Kim Lejolier, Nissan. Pendant l'événement Mettez nos défis, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Prenez le volant d'un Kicks 2026 avec un taux de financement aussi bas que 0% sur 36 mois. Jolier Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Parler de la mort n'est pas un sujet facile. C'est pourquoi votre coopérative funéraire vous aide à planifier vos arrangements préalables avec empathie, et ce, sans pression. En plus d'éviter à vos proches d'avoir à prendre des décisions sous le coup de l'émotion, vous décidez du type de funérailles que vous souhaitez et vous en payez le coût au tarif d'aujourd'hui. Appelez-nous pour en discuter, car ce qui compte pour vous, compte pour nous. La coopérative funéraire de Matawini-Montcalm, éternellement dévouée.
Ici Catherine Barry et Tania Devillers, vos pharmaciennes propriétaires de la pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel-de-Brandon.
Avant de partir en voyage, pensez à préparer une trousse santé à apporter avec vous. Nous allons la personnaliser afin qu'elle convienne à vos besoins et aux risques de votre destination. Lorsqu'on voyage, il est également recommandé de s'informer sur les différentes maladies possibles. Nous pouvons vous prescrire un antibiotique pour la diarrhée du voyageur et un traitement préventif pour la malaria ou le mal aigu des montagnes. Et n'oubliez pas de mettre à jour votre carnet de vaccination. Nous pouvons vous prescrire et vous administrer les vaccins nécessaires.
Pour être bien conseillé, appelez-nous au 450-835-5071 ou venez nous voir en pharmacie au 185 rue Saint-Gabriel à Saint-Gabriel-de-Brandon.
Écoutons les conseils de Cassandra Lalande, denturologiste.
Retrouvez le plaisir de manger grâce aux implants dentaires. La pose d'implant permet la stimulation de l'os visant à conserver sa densité osseuse en plus de servir d'ancrage à votre prothèse. Qu'elle soit partielle ou complète, la prothèse sur implant permet de retrouver une force masticatoire considérable, en plus de vous redonner une stabilité. Rien à voir avec une prothèse conventionnelle. Du même coup, ces bénéfices vous redonneront la confiance de sourire.
C'était un message du Centre de denturologie Cassandra Lalande, 175 rue de la Visitation, bureau 100, à Saint-Charles-Borromée, 450-756-1935.
Québec Redneck Bluegrass Project débarque pour une soirée explosive à Joliette le 20 juin, avec le phénomène de l'heure, angine de poitrine et en première partie, l'énergie brute de Blam.
C'est quand ça va bien, que c'est un de ces matins.
Le groupe présentera les chansons de nouvel album à venir ce printemps, sans oublier leurs incontournables. Viens célébrer le début de l'été lors d'un show qui promet d'être mémorable au parc Louis-Kerbe à Joliette. Réserve tes billets dès maintenant au spectaclejoliette.com.
Profitez du beau temps pour changer votre toiture. Misez sur les toits idéal et permanent, les spécialistes du bardeau métallique. Aucun entretien, écologique, c'est le choix intelligent. Communiquez avec nous dès maintenant sur toitureidéal@pluriel.com et profitez du financement disponible. toitureidéal@pluriel.com.
L'actualité de ce mercredi 27 mai, en manchette, plus de la moitié des Lanaudois n'ont pas la capacité de lire des textes complexes. Les omnipraticiens ont inscrit plus de 500 000 patients et le maire de Saint-Thomas était absent lors d'un vote à la MRC. Pierre Jubinville, tout d'abord, les entreprises de la région ont de la difficulté à combler leurs besoins de main-d'œuvre.
Et ce n'est pas une statistique que c'est intéressante pour la région. Plus de la moitié de la population active lanaudoise ne possède pas le niveau 3 nécessaire pour lire des textes complexes de manière autonome. Cette statistique est contenue dans une étude réalisée par le Comité régional pour la valorisation de l'éducation.
Avec un taux de 55,9%, cette situation a des répercussions sur la capacité des entreprises de combler leurs besoins de main-d'œuvre. La directrice générale du Créval, Anne-Marie Picard.
C'est que ça nous enlève beaucoup de capacité d'innovation, de créativité, de développement.
L'enjeu principal est la réussite scolaire, car le taux de diplomation au secondaire sur une période de 7 ans est de 79,4% dans la Naudière. Ce taux est plus élevé que la moyenne québécoise, qui est de 70% sur une période de 5 ans. Le président du conseil d'administration de la Fondation pour l'alphabétisation, Pierre Lutzi.
Il y a des provinces qui diplôment à 90-95%. Et c'est cette réussite scolaire-là, elle est requise pour être capable de bien fonctionner dans la vie moderne.
Le but serait d'atteindre un taux de diplomation de 90%. Pour y parvenir, Mme Picard est convaincue que le développement du plaisir pour la lecture dès l'enfance est crucial.
Entre un enfant à qui on a fait la lecture et un à qui on n'a pas fait la lecture à l'entrée à la maternelle, celui qui a lu va connaître jusqu'à 600 mots de plus.
Marie-Pierre Poulin pour CFNJ Nouvelles.
On aura l'occasion de vous présenter une entrevue complète qu'a réalisée Anne-Marie Poulin avec Mme Picard dans quelques minutes après les actualités. Pierre, la grande question que plusieurs se posent, où était le maire de Saint-Thomas hier lors d'une réunion de la MRC de Joliette?
Il était absent, on ne sait pas trop pourquoi. Les élus ont quand même adopté le règlement modifiant le schéma d'aménagement de la MRC pour modifier les grandes affectations sur le territoire de Saint-Thomas. Les grandes affectations, ça comprend aussi le projet d'agrandissement du site d'enfouissement. Or, l'observatrice qui a été nommée le 8 mai par Québec pour évaluer la gouvernance de la MRC, à la demande des élus de Saint-Thomas, n'a pu que constater l'absence du maire. On écoute le préfet, Pierre-Luc Bellerose.
De notre côté, là, il y a aucun doute là, sur l'intégrité, sur le travail qui est réalisé du côté de la MRC. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Certainement. Mais on s'appelle que les allégations là, de M. Rondeau, ou à tout de moins les résolutions qui ont été adoptées, qui demandaient la tutelle, qui parlaient d'ingérence du préfet, que le préfet décrétait certains trucs, là, c'est largement exagéré. Même chose au niveau des prétentions par rapport au conseil d'administration.
Santé maintenant, les omnipraticiens ont réussi leur défi.
Un mois plus tôt que prévu, ils ont réussi à inscrire 500 000 nouveaux patients. Mais on se demande finalement si les patients auront réellement plus de services, puisque ces inscriptions sont pour la plupart collectives. On écoute le président de la Fédération, le Dr Marc-André Amillot, qui se montre rassurant.
Auparavant, un diabétique était vu 3-4 fois par année par son médecin. Maintenant, en travaillant en interprofessionnalisme avec des infirmières, des pharmaciens, le patient va être vu une fois par année par son médecin, 3 fois par année par les autres professionnels. Le médecin fait le diagnostic, peut amorcer une médication, puis l'ajustement se fait par l'infirmière. Ça libère des plages.
Un jeu dangereux maintenant à Manawan.
Oui, des vidéos virales qui circulent sur les réseaux sociaux, dont TikTok. Des personnes y montrent comment on dessert ou retire les boulons de roue d'un véhicule à l'insu d'un propriétaire en pleine nuit. Alors, la police de Manawan a reçu plusieurs plaintes dans les derniers jours. Il est évidemment recommandé de vérifier ses roues le matin.
Avant de quitter, ouais,
oui.
C'est moi, tout un jeu. C'est et un finalement, ben, Christine Fréchette là, qui ignorait certaines hausses de frais destinées aux citoyens par son gouvernement.
Oui, elle admet qu'elle ne savait pas que son gouvernement s'apprête à augmenter la taxe sur les primes d'assurance. Cette hausse vient en quelque sorte, Claude, minimiser l'impact des mesures d'aide aux familles qu'elle vient tout juste d'annoncer.
En étude des crédits, le libéral André Fortin a semblé surprendre la première ministre.
Est-ce que vous saviez que le 1er janvier, votre gouvernement augmentait la taxe sur les produits d'assurance?
J'étais pas nécessairement au fait.
Or, cette taxe va rapporter 316 millions au gouvernement. En mêlée de presse, Christine Fréchette a admis que ça vient annuler une partie de ses annonces.
Ça va représenter une dépense d'environ 39 $ par famille. Donc, c'est sûr qu'on va continuer de notre côté pour la suite des choses.
Moi, surtout, la première ministre a admis qu'elle ignorait cette hausse de taxes.
Ça a été adopté au budget il y a 15 mois. Alors, voilà.
Elle ignorait aussi l'état de la dette du Québec.
Quoi, la dette nette au Québec?
La dette nette aujourd'hui. Le bon chiffre.
Environ?
Ça équivaut à quoi?
Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles, Québec.
Oui. C'est inquiétant de savoir que c'est la première ministre. Oui. merci beaucoup, Pierre. Bonne soirée. Puis, tes prévisions pour le match de ce soir?
Je n'ai rien à dire.
Je viens de le prendre des culottes pincées totalement. Merci, salut. Pierre.
Lanaudière PM.
Lanaudière PM.
Claude Fournel.
CFNG.
Lanaudière PM. Éducation.
Dans Lanaudière, 55,9% de la main-d'œuvre n'atteint pas le niveau 3 en littératie. Ça signifie qu'une proportion importante des citoyens n'a pas la capacité à lire des textes complexes de manière autonome. Marie-Pierre Poulin s'est entretenue là-dessus avec la directrice générale du CREVAL, le Comité régional pour la valorisation de l'éducation. Elle se nomme Anne-Marie Picard, donc la directrice générale. On écoute l'entretien.
On parle de 52 %, ça c'est dans tout le Québec. Dans Lanaudière, c'est quoi en fait le pourcentage?
Dans Lanaudière, on a eu une légère amélioration, là, donc on était à 57,1 en 2016, maintenant on est à 55,9. Ça reste quand même que plus de la moitié de la population adulte, là, c'est chez les gens, je pense, de 15 à 64 ans, cette donnée-là. Donc, plus de la moitié de notre population adulte en âge de travailler qui n'atteint pas ce niveau 3, là.
Et c'est quelle tranche d'âge qui est le plus vulnérable parmi ceux-là?
C'est difficile à dire parce que les données sont vraiment pour la tranche d'âge au complet, mais la vulnérabilité est partout. Les problèmes en littératie, puis moi je trouve que c'est une bonne idée là que là c'est le Conseil des patronats, c'est le milieu des affaires qui sortent ça avec l'association, parce que effectivement, en emploi, avec l'évolution du marché de l'emploi, l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, l'industrialisation, il faut être capable d'avoir ce niveau 3-là si on veut progresser dans l'entreprise. Même un entrepreneur qui déciderait d'offrir des formations à ses employés, si ceux-ci n'ont pas le niveau 3, la formation elle va pas être aussi efficace. Des règles de sécurité aussi. S'il y a une hausse d'accidents dans certaines entreprises parce que justement c'est moins compris. C'est pour ça qu'on travaille avec des pictogrammes aussi beaucoup. Puis le fait de pas avoir ce niveau 3-là, ce que ça fait aussi au niveau de tout le développement des affaires puis le développement économique, c'est que ça nous enlève beaucoup de capacités d'innovation, de créativité, de développement. Donc, les effets sont partout dans la vie. On dit même qu'au collégial, dans la Naudière, parmi les gens qui ne terminent pas leurs études, 42% c'est parce qu'ils ont des difficultés de lecture au collégial.
Et justement, vous parliez d'école. C'est quoi le taux de diplomation dans la Naudière?
Actuellement, là, dans la Naudière, on est rendu à 79,4% pour le taux de diplomation après 7 ans. Donc, on laisse 7 ans aux gens pour faire leurs études secondaires. On a beaucoup travaillé là les dernières années là, c'est quand même une belle amélioration parce qu'il y a plusieurs années on était à 68%. Donc on a plus de 10 points de pourcentage de plus là au niveau de notre taux. Et l'autre chose aussi qu'il faut se rappeler, c'est que notre écart avec le Québec se rétrécit beaucoup. Depuis la pandémie, il y a eu des tendances à la baisse. Mais on se rappelle que pendant la pandémie, il y a des examens ministériels qui n'ont pas eu lieu, fait que les taux étaient meilleurs. Mais si on regarde sur une longue période, là, le travail qu'on fait dans la région là a porté fruit.
Et justement, vous parlez de travail. C'est quoi les efforts mis en place justement pour aider la population en général à avoir leurs études, à atteindre ce niveau 3-là?
C'est certain que au niveau de la diplomation, de la réussite éducative, c'est une chose. Au niveau de la littératie, c'en est une autre. Nous, on a fait notre planification stratégique l'année passée et c'est devenu notre déterminant prioritaire. Fait que là, l'année prochaine, on va vraiment transférer des connaissances à nos partenaires, voir ensemble comment on veut intervenir, parce qu'il y a plusieurs endroits où intervenir. Tu sais, ne serait-ce que aider à développer le plaisir de lire. Ça, c'est un dossier en soi. Chez les tout-petits, l'éveil à la lecture qu'on appelle, qui est aussi très importante parce que entre un enfant à qui on a fait la lecture et un à qui on n'a pas fait la lecture, à l'entrée à la maternelle, celui qui a lu va connaître jusqu'à 600 mots de plus que l'autre. Donc, c'est déjà un écart dès l'entrée à l'école. Fait que ça aussi, c'est un autre dossier. Maintenant, comment on fait au primaire pour stimuler ça, pour faire en sorte que les ados aiment lire, pour faire en sorte que on va continuer à lire après l'école. Fait que c'est ça qu'on va faire l'année prochaine, là, vraiment, c'est voir par où on commence. Puis moi, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est commençons par être, nous les adultes, des modèles de lecteurs pour les gens autour de nous.
Et dans les prochaines années, c'est quoi, mettons, le taux que vous espérez atteindre?
Ben, c'est sûr que c'est une question qui est difficile parce que, tu sais, moi, je voudrais que tout le monde sache bien lire. J'ai tellement de plaisir à lire. Puis je sais que, autant pour le développement régional que pour le développement personnel de chaque individu, c'est important aussi. Mais on sait que pour les taux de diplomation, les objectifs ministériaux, c'est autour de 90%. Fait que, tu sais, moi, je pense que si on était capable d'atteindre ça aussi, qu'au moins 90% de notre population atteigne au moins le niveau 3 de littératie dans la Naudière, on serait très, très heureux. Puis ça, je pense que c'est un travail de longue haleine. Puis si vous me permettez, en terminant, si vous connaissez des adultes qui ont des difficultés de lecture et tout ça, il y a des organismes d'alphabétisation partout dans la Naudière. Donc, allez les voir, ce sont des gens très intelligents, intéressants, sympathiques. Puis, les gens qui fréquentent leur organisme habituellement sont très satisfaits. Puis, ça aide aussi à te créer un réseau social, à connaître d'autres gens près de chez toi.
Voilà, c'est Anne-Marie Picard qu'on écoutait. Elle est directrice générale du CREVAL, le Comité régional pour la valorisation de l'éducation. Marie-Pierre Poulin s'est entretenue avec elle. C'est quand même très grave. Dans la Naudière, 55,9% la population n'arrive pas à atteindre le niveau 3 de littératie, là. C'est pas de l'analphabétisme, mais c'est pas loin, là. Il est 16h44. Dans un moment, Pierre Paquette.
Votre réseau ralentit vos opérations? Avec Fleet Info, profitez de solutions réseautiques fiables, Wi-Fi performant et support technique rapide avec service d'urgence 24/7. Optimisez votre entreprise dès maintenant avec Fleet Info, expert TI.
Bonjour, c'est Kim de Joliette-Nissan. C'est l'événement Mettez-nous au défi et c'est également le retour du Pathfinder 2026 en concession. Profitez-en pour découvrir pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Passez en concession pour en faire l'essai ou pour voir nos différents modèles 2026. Nous vous attendons au 800 boulevard Basse de Roque à Joliette. Joliette-Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
ADA recrute et la ruche s'agrandit. Chez Aide à domicile d'Autré, on croit qu'une communauté forte, c'est comme une ruche. Chacun a son rôle et ensemble, on fait une vraie différence pour les aînés de notre MRC. Nous embauchons actuellement des aides à domicile pour l'entretien ménager. De belles conditions, des horaires vraiment flexibles et surtout, beaucoup de reconnaissance. Tu es une personne attentionnée et tu veux un emploi qui a du sens? Joins-toi à une équipe colorée et inspirante. 450-404-2219 poste 3 ou visite leur page Facebook.
Un vendeur cogne à votre porte ou il vous sollicite dans un kiosque temporaire, méfiez-vous. La loi lui interdit de vous solliciter concernant le chauffage, la climatisation, l'isolation ou la décontamination. Par exemple, il n'a pas le droit de vous vendre une thermopompe. Face à un vendeur itinérant, faites toujours des vérifications avant de vous engager. Visitez lequebec.ca/vente-itinérante pour connaître toutes les situations où il faut se méfier. Un message du gouvernement du Québec.
Entrepreneurs et contracteurs, Fenêtrage Saint-Ambroise vous attend pour ses journées portes ouvertes en collaboration avec Fenplast, votre destination de choix pour les portes et fenêtres au meilleur rapport qualité-prix. Le vendredi 5 juin, de 8h à 17h, venez discuter entre pros avec nos nombreux fournisseurs et découvrir nos nouveautés, dont la fenêtre Premia de Fenplast. Dîner barbecue, rafraîchissement en promotion et prix de présence. Et le lendemain, tout le monde est invité à la fête pour explorer notre centre de liquidation et découvrir notre nouvelle salle de montre. Les 5 et 6 juin, rendez-vous chez Fenêtrage Saint-Ambroise, 950 route 343 à Saint-Ambroise-de-Kildare.
À CFNJ, voici le commentaire de Pierre Paquette.
Bonjour Pierre.
Oui, bonjour.
Débat sur la clarté référendaire qui est relancé et c'est Mark Carney qui a allumé le feu.
Ben oui, exactement. Tout le monde lui a reproché d'ailleurs. Tous les commentateurs lui ont reproché de tirer un petit peu trop vite sa gâchette. Là. Il a dit que la loi... D'abord, il a commencé par dire que la loi sur la clarté pourrait s'appliquer dans le cas de la question référendaire de l'Alberta. Ensuite, il s'est ravisé, mais le mal était fait, là, le débat était lancé. Est-ce que ça prend 50% plus 1 ou c'est la Chambre des communes qui va déterminer le niveau nécessaire pour que une référendum soit reconnu là, si le oui l'emportait? Alors, ça a vraiment ouvert le débat et puis... Le ministre de la Justice du Québec, Simon-Jolin Barrette, a sauté dans la mêlée avec en défendant fermement le droit du Québec, de l'Assemblée nationale, de dicter les règles d'un futur référendum avec la loi 99 qui a été adoptée en 2000 par le gouvernement de Lucien Bouchard.
Puis, ben, puis là, Pierre, on peut comprendre que Simon-Jolin Barrette là, est souverainiste. Là, on commence à voir qu'à la CAQ, il y a des fédéralistes, des souverainistes.
Oui, on voit ça parce que il y a eu aussi monsieur... le ministre de la...
Mathieu Lacombe.
Mathieu Lacombe, le ministre de la Culture, qui a dit que s'il y avait un référendum, il serait dans le camp du oui. Le ministre du Travail lui a dit qu'il serait dans le camp du non. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est pas une tactique pour montrer justement que la CAQ est une vaste coalition et que finalement, les nationalistes mous peuvent s'y retrouver chez eux. Toujours est-il que la première ministre, Christine Fréchette, lui, a été vraiment à l'aise. Esquiver la question. Mm-hmm. C'était pas très habile, je pense, de sa part, parce que son ministre de la Justice avait quand même été assez clair. Même le chef du Parti libéral, Millard, a dit que c'était un consensus québécois, le fait que c'est l'Assemblée nationale qui va déterminer le seuil pour que le référendum, la réponse soit positive.
Mais qu'on soit fédéraliste ou souverainiste, Pierre, un consensus de tous les partis à l'unisson là à Québec, là qu'on s'en réfère à cette loi 99 qui avait été instaurée par le gouvernement de Lucien Bouchard.
Oui, puis qui a été reconnue valide par la Cour d'appel du Québec. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Et c'est pour ça que j'étais un peu surpris que la première ministre, Christine Fréchette, n'ait pas vraiment l'intention d'appuyer son ministre de la Justice. Je pense que peut-être parce qu'elle va avoir des bonnes relations avec M. Carney. Mais toujours est-il que c'est M. Carney qui a mis l'huile sur le feu en utilisant l'argument que ce serait la Chambre des communes qui déterminerait le seuil acceptable pour reconnaître un oui au référendum albertain. Et que la question serait aussi jugée par la Chambre des communes. Alors, ça va être très intéressant pour nous, parce que ça va se passer en Alberta, mais ça va avoir des échos au Québec incroyablement. Puis on est en période électorale, et même chose pour l'Alberta. Eux, le référendum est prévu pour le 19 octobre, puis l'élection est le 5 octobre.
Et ce qu'a dit Carney, c'est que la Chambre des communes doit tenir compte des facteurs suivants pour établir une détermination d'un vote clair, c'est-à-dire l'ampleur de la majorité des suffrages valides qui a été exprimée en faveur d'une option plutôt sécessionniste. Également, le pourcentage des électeurs admissibles qui ont participé au référendum. Il dit c'est pas un 50% plus 1. En démocratie, que t'aies voté ou non, ben si t'as pas voté, tant pis pour toi. Tu fais pas partie des gens qui ont voté, alors t'es pas compté, t'es pas calculé. 50% plus 1, c'est la majorité en démocratie. C'est plus simple que ça.
On a des précédents là. Bon, il y a eu le référendum de 80, celui de 95. Le gouvernement fédéral à ce moment-là, puis c'était Jean-Chrétien en 95. Il s'est pas immiscé dans le processus pour déterminer la question et le niveau pour accepter la réponse des Québécois. Il y a eu l'Écosse où on a eu récemment, quelques années, un référendum qui était aussi à la base de 50% plus 1. Mm-hmm. Faut se rappeler toujours que Terre-Neuve est rentrée dans la Confédération canadienne après deux référendums, dont le dernier a été gagné par 50%, pas mal plus qu'un, là, mais quand même assez serré. Alors, il y a des précédents, puis franchement, j'ai trouvé que c'était très, très malhabile de la part de Carney, d'autant plus qu'il a dû se rétro-pédaler, comme on dit, parce que la loi sur la clarté ne peut pas s'appliquer à la question que pose la première ministre de l'Alberta, parce que c'est une question sur la question. Alors, Stéphane Dion est intervenu pour dire qu'effectivement, la loi sur la clarté ne s'appliquerait pas, parce que c'était, encore une fois, c'est pas la question qui va amener à une décision, c'est la question, est-ce qu'on prend une décision?
Ouais,
alors,
c'est
à suivre.
Puis là, question sur la question, ça, c'est un autre débat que je trouve, en tout cas, je trouve ça un petit peu ridicule, la question sur une question référendaire, mais on aura l'occasion d'en reparler,
ben, tout ça, c'est sûr. Appelle par en avant, la madame.
Ouais. Oui. Merci beaucoup, Pierre.
OK, bye.
Salut. Je salue et remercie nos collaborateurs à l'émission aujourd'hui, François Morin, Régent Turgeon, Pierre Jubinville, Marie-Pierre Poulin, ainsi que Pierre Paquette, ici Claude Fournel. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Manquez pas Nicolas Bellemare qui sera là pour vous présenter le 5 à 7 traits de l'autre côté de l'actualité de 17h. Entre-temps, la vie dans la Naudière avec Hugo Valiquette. Bye-bye, bonne soirée, bon match ce soir. On se croise les doigts pour le Canadien. Ciao.